Il a deux trois de réveillé, donc il n'était pas encore là parmi nous. Luc 15, on s'en va ensemble dans ce beau chapitre de la parole de Dieu. Et on va lire les versets 17 à 27 pour un peu se remettre dedans. On commence dans le fond où est-ce que le fils prodigue est en réflexion profonde, étant entré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. On va arrêter là pour l'instant, on va lire d'autres versets plus tard, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Maintenant, je vais prier. Seigneur, c'est ta parole qu'on a entre les mains, c'est des vérités précieuses, parce que c'est des vérités pour maintenant. C'est pas des vérités non plus, c'est des vérités pour chacun de nous, c'est pas juste pour la personne à qui qu'on peut penser, qui a un problème, qui a ci, qui a ça. Seigneur, tu es un Dieu personnel, tu t'adresses à chacun de nous ce matin, de façon personnelle. Qu'on puisse, Seigneur, seul devant toi, considérer ce que tu as à nous dire. Et qu'on considère aussi comme Église, avec ce corps que tu réunis, que tu façonnes à l'image de Christ, Seigneur, que ta parole puisse nous éclairer dans le chemin que tu traces devant nous. Et Seigneur, qu'on se soumette à ce que tu nous montres, à ce que tu nous appelle, Seigneur, tu nous appelles à se confier en toi, à dépendre de toi. On désire vivre par la foi, une confiance en toi, Seigneur, à la lumière de ce que tu as à nous dire, et que, Seigneur, ça porte du fruit pour ta gloire. On s'en remet en tes mains pour ce temps, que tu puisses accomplir tes desseins bienveillants, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. La motivation pour Dieu, notre source de vie. La motivation pour Dieu, notre source de vie. Et c'est le titre du message, puis vous allez un peu comprendre pourquoi dans un instant, mais juste avant, j'ai l'impression des fois de me répéter, de radoter un peu, mais je regarde ce passage familier avec des nouveaux yeux. Parce que, en fait, je regarde pas mal tout l'ensemble de ma vie avec des nouveaux yeux. Et comme le dirait l'annonce des cornflakes, goûtez-y encore, découvrez-le encore pour la première fois. Encore pour la première fois. Vous savez, des fois, on peut avoir des passages qu'on connaît, qu'on a lus, qu'on a relus, qu'on a entendu prêcher dessus. Puis par l'illumination du Saint-Esprit, par l'enseignement de Dieu lui-même sur nos cœurs, il jette une nouvelle lumière sur ces vieilles vérités, mais ces vérités familières, mais qui ont un tout nouveau parfum. Et donc, la parabole du fils prodigue, c'est un peu ça que ça l'a fait pour moi, et c'est ce que je veux vous partager. Souvent, j'ai considéré ces choses beaucoup par rapport au pardon. Premièrement, comme une parabole considérant le pardon. Mais j'en viens à voir que c'est plus que ça, et ça va plus loin. C'est d'abord et avant tout par rapport à l'acceptation. Parce que l'attitude du père, ici, était qu'il avait déjà pardonné son fils. C'est lui qui va à sa rencontre. C'est lui qui recherche à rétablir. Sa disposition était déjà pleinement favorable envers son fils. Mais là où il y a une tension dans l'histoire, c'est lui, il se demande, le fils, est-ce que je vais être accepté en revenant après ma galère de débauche et d'ivrognerie? Et clairement, le fils aîné, lui, a tranché la question. Non, mes amis, ils ne méritent pas de retourner. Puis, il n'en est même pas content. Et on sait qu'il représente les scribes et les pharisiens, ce fils aîné. Mais le Père, qu'est-ce qu'on peut lire au verset 22? Ça dit, mais le Père. Ça, c'est le mais Dieu de notre histoire. C'est le point tournant, mais le Père. Ah, lui, il était là, puis il avait son histoire. Il était prêt à arriver avec tout son petit speech. Préparé d'avance, le fils prodigue. Mais le Père, lui, était disposé favorablement à l'accepter. Et je dirais que le plus grand problème d'acceptation dans cette parabole, c'est pas tant ce qui touche le Père, même non plus le fils aîné, mais le fils prodigue lui-même. Parce que lui, lorsqu'il rentre en lui-même, comme on a vu au verset 17, il prépare son plan. Il prépare son speech. Et c'était tout basé sur la performance. Hey, là, ça va-tu être... Voici, je veux t'amener ces choses-là, je suis pas digne, puis tout ça, mais on va regarder ça plus tantôt, mais dans le fond, il se préparait un speech d'acceptation conditionnelle. Je suis pas digne d'être appelé ton fils, puis tu devrais pas m'accepter, mais je plaide. Mais le Père, il prête même pas attention ou répond à ce plan, à ce speech. Il laisse même pas finir de parler. Puis, il le reçoit, il l'accepte. Pourquoi? Parce que le fils déjà était repentant, le fils déjà allait vers lui, le fait juste d'aller vers lui, il avait pas besoin des speeches, de toutes les affaires. C'est une réconciliation, c'est une restauration qu'on voit là. Et c'est tellement au-delà. Des fois, on pense que si on va à Dieu, on va faire de la pénitence pendant tant de temps, puis Dieu va nous recevoir de façon conditionnelle. Mais lorsqu'on retourne à notre Dieu, il nous prend tel qu'on est, il nous amène dans sa maison, il nous donne la pleine bénédiction de ceux qui retournent à lui. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais il y a tellement d'applications sur ce qu'on peut voir pour une vie chrétienne avec ces vérités-là. Tout le concept de notre relation avec Dieu. Comment qu'on approche Dieu quand qu'on a péché, quand qu'on s'est égaré? C'est même sorti dans le temps de prière, des gens qui, pendant des périodes longues de leur vie, se sont éloignés de Dieu. Puis souvent, quand on est loin-même, on se dit, est-ce que je peux retourner à Dieu? Je peux-tu me rapprocher de ce Dieu? C'est pour ça que je veux développer aujourd'hui la motivation pour Dieu, notre source de vie. Avec deux éléments fondamentaux qu'on a besoin de croire par rapport à notre acceptation. Dieu nous accepte en Jésus de façon complète et parfaite. Et s'approprier ça, l'accepter, c'est accepter son amour. Et c'est ça la motivation pour Dieu, notre source de vie. C'est l'amour de Dieu. C'est ça qui nous motive, car l'amour de Christ nous presse. Car si un seul est mort, tous donc sont morts. Et donc, deux motivations, c'est ce qu'on va voir maintenant, deux motivations pour s'approcher de Dieu, notre source de vie. D'abord, la première motivation, faut croire que nous sommes acceptés par Dieu le Père. Croire que nous sommes acceptés par Dieu le Père. Et là, petite parenthèse, je veux souligner un point important par rapport à Dieu le Père. Pour beaucoup d'entre nous ici, c'est difficile de recevoir, de croire, de s'approprier la révélation de Dieu le Père à cause de l'image ternie, déformée et imparfaite qu'on a de notre Père terrestre. Certains ont eu des bons pères, bienveillants et tout ça, d'autres, c'est vraiment pas une aussi belle histoire. Des fois, ils étaient absents, des fois, ils pouvaient être violents, ils pouvaient être différents. C'est certainement une image ternie, déformée et imparfaite que nous avons lorsqu'on regarde à notre Père terrestre. Et à cela, je veux seulement amener ce point-là très simple. Et je crois que c'est le cœur de le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut qu'on ait une juste vision de lui. Et ça, c'est pour ça qu'il s'est révélé à nous. Dieu ne nous demande pas d'imaginer comment il est. Il s'est révélé à nous comme... Là, il y a des téléphones un matin. Ils sont où les téléphones qui font du bruit de main?
Ça sera pas
là. OK. Pouvez-vous les mettre genre en dessus? Assoyez-vous dessus ou je sais pas trop. Ah, ça me distrait, moi, ça, mais... En tout cas, c'est quoi je disais, là? OK, c'est ça. De demander à Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence. Au lieu d'essayer de s'imaginer nous-mêmes comment Dieu est, de demander à Dieu qu'il révèle à nos cœurs qui il est. C'est une prière biblique. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu, ça c'est Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, Paul avait cette prière pour que Dieu le Père se révèle au cœur des Éphésiens. Et Jésus, vous savez, dans une conversation qu'il a eue avec Philippe, eh oui, Philippe, c'est pas notre petit Philippe, c'est un autre Philippe. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela suffit. » Parce qu'on n'est pas les seuls des fois à avoir de la misère. Hein, Dieu, le Père, c'est qui exactement? Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Christ est venu nous révéler le Père. Et si on veut connaître le Père, on le connaît par le Fils. Et donc, c'est une prière, c'est une recherche de nos cœurs dans la parole que Dieu se révèle à nous tel qu'il est. Ça, c'était ma parenthèse par rapport à Dieu le Père. Croire qu'on est accepté par Dieu le Père. Je vous dis, pour tellement ici, c'est dur à croire parce que ce qu'on a vécu de la part d'un père, c'est du rejet. Donc pour nous, un père, ça rejette, ça ne l'accepte pas. OK? Mais c'est, notre Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un bon père qui accepte, qui nous accepte dans le bien-aimé, dans son Fils Jésus-Christ. Et donc, là, je pose une question. Par rapport à notre parabole ici, on met un peu la table pour notre premier point de croire qu'on est accepté par le Père. Est-ce que le Père, dans la parabole du fils prodigue, est en colère contre le fils prodigue? Moi, je ne vois rien dans le texte qui nous montre de la colère de sa part. Il veut simplement que son fils voie, et écoutez bien, la folie de ses propres voies. Il le laisse aller à son comportement d'égarement pour qu'il revienne après à son père. Le père n'a pas arrêté d'accepter son fils, même si ce dernier se sentait, de toute évidence, comme n'étant pas accepté. C'est pour ça qu'il prépare son speech. Il faut que je le convainque de m'accepter. Fait qu'il avait son speech de prêt. Et écoutez bien, un enfant de Dieu, s'il ne croit pas qu'il est accepté par son père céleste, va agir en conséquence. Si Satan réussit à nous faire sentir, puis souvent c'est nos émotions qui nous trompent, nous fait sentir qu'on n'est pas accepté à cause de nos mauvais comportements, du fait qu'on s'est éloigné, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, ou qu'on n'a pas fait ci, ou qu'on n'a pas fait ça, alors il peut nous garder dans un pays éloigné pendant longtemps. Mais lorsqu'on sait qu'on est convaincu que Dieu nous aime, qu'il nous accepte pleinement en Jésus-Christ, on va ressentir une motivation dans notre cœur lorsqu'on voit la folie de nos voies, puis ça va nous pousser à courir pour aller nous jeter dans ses bras. C'est tellement important ce qu'on voit là, voir qu'on est accepté par le Père, que même Dieu ne prend jamais le péché à la légère, Dieu ne redéfinit pas le péché, Dieu ne veut pas l'excuser, Dieu nous laisse aller à notre folie pour qu'on voit la laideur du péché, qu'on voit la destruction de l'égarement, mais que ça ne nous amène jamais à voir ça comme si c'était la signification que Dieu nous a rejetés, nous accepte plus. Aussitôt qu'on se tourne vers lui, qu'on rentre en nous-mêmes, qu'on voit qu'on a péché, on peut courir se jeter dans ses bras. Et Dieu, Jésus a dit, et c'est pareil pour Dieu le Père, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Est-ce que ça veut dire que dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas de place pour la confession des péchés? Bien sûr que non. C'est-à-dire, Évidemment qu'on, lorsque on pêche, on confesse à Dieu. Confesser, ça veut dire quoi? C'est d'être d'accord avec Dieu. D'accord avec Dieu sur notre folie, notre désobéissance, notre incrédulité, notre indépendance orgueilleuse. D'être d'accord avec Dieu. Mais savez-vous quoi? Cette confession, lorsque par la foi on connaît qui Dieu est, aussitôt qu'on confesse, on peut aussi suivre ça de louange parce que Dieu nous a déjà pardonné pleinement. On n'a pas besoin d'essayer d'être pardonné. On confesse et on reconnaît qu'on est pardonné. En Jésus-Christ, nos péchés passés, présents, à venir sont déjà tout pardonnés. Donc, on peut remercier le Seigneur pour ce pardon merveilleux. Et le Père est en relation avec nous autres dans une relation de pardon, un cœur de pardon. C'est sa disposition envers nous. C'est un amour qui nous accepte. Et ça, on doit le croire. Le croyez-vous? Quand vous péchez, que Dieu vous accepte pareil. Dieu n'accepte pas le péché. Puis il n'aime pas le péché. Mais le péché, ça ne veut pas dire qu'il nous rejette, nous. Parce que là, je vais vous amener un point important. Nos fameuses émotions. Souvent, on se sent loin de Dieu. On se sent, puis avec raison, on peut être loin de Dieu, mais on sent dans notre cœur que Dieu n'est pas content de nous autres et nous regarde avec un regard d'indignation. Bien, si on se sent de même par rapport à notre Dieu, nos émotions nous mentent. Et on ne doit pas écouter nos émotions, on doit écouter ce que la parole nous révèle sur lui. En fait, c'est Dieu qui nous laisse aller dans l'enclos des pourceaux, qu'on sente notre misère, puis qu'on voit comment lui est là et il nous attend à bras ouverts. Il attend simplement qu'on se repente, qu'on se tourne vers lui. Un regard vers lui nous redonne l'espoir que ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais si on reste pris dans notre enclos à pourceaux, oh, mes amis, c'est là qu'on s'enfonce. Donc, mes amis, c'est tellement important de comprendre, en Jésus-Christ, on est déjà pleinement, 100% accepté par notre Père céleste. Si vous n'avez pas reçu Jésus comme votre sauveur, si vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas passé de la mort à la vie, vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur, là, vous avez à vous inquiéter parce que la colère de Dieu demeure sur vous. Essayez pas de plaire à Dieu par vous-même. Acceptez que Christ a pris cette colère sur lui pour que vous, vous puissiez être justifié. Lui juste est mort pour vous injuste. Ça, c'est une autre histoire. Mais là, je parle principalement ici, la majorité des gens connaissent Jésus comme leur sauveur personnel. Mais si vous ne le connaissez pas, vous devez aller à Jésus-Christ pour être réconcilié avec Dieu. Comme ça dit dans 2 Corinthiens, nous vous en supplions. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais là, les enfants de Dieu, je veux dire quelque chose ici d'important. Pour clore ce premier point du fait que nous sommes acceptés par Dieu le Père. Ce qu'on regarde là, c'est tellement important. Le fait qu'on est pleinement accepté par Dieu le Père, parce que c'est difficile, c'est même pénible d'aimer de tout notre cœur, n'est-ce pas le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est dur, c'est pénible d'aimer quelqu'un qu'on croit qu'on ressent qui ne nous accepte pas complètement. T'es comme gêné. Voyez-vous comment c'est un blocage et une entrave au fait qu'on a besoin de comprendre et de croire à l'acceptation parfaite et complète de Dieu en Jésus-Christ. Sinon, c'est un blocage dans notre relation avec Dieu. Il faut qu'on le croie. On doit croire que nous sommes acceptés par le Père. Amen. Et qu'il n'y a pas de péché trop grand, d'égarement trop loin, pour qu'on ne puisse pas, comme ici, justement, c'est ça le point. Il était vraiment dans le pire du pire. Il avait tout dilapidé. Il était dans la pire des vies. Il était dans la pire des conditions. Puis quand même, il pouvait retourner à son Père. Parce qu'il était accepté. Deuxième chose que nous devons croire pour la motivation, croire qu'on est accepté par notre Père, on doit croire que nous avons une nouvelle identité devant le Père. Nous avons une nouvelle identité devant le Père. Le problème ici du fils prodigue, c'est qu'il ne comprenait pas ou ne croyez pas à son identité première de fils de ce Père. Il croyait, comme il dit dans son speech, qu'il n'était pas digne d'une relation intime et proche avec son Père. C'est ce qu'il dit. Je ne suis pas digne, même d'être appelé un de tes serviteurs. Il croyait qu'il était seulement digne d'être dans le rang des petits serviteurs, ouvriers, esclaves. Combien c'est la pensée de beaucoup de chrétiens qui pensent que, à cause de leurs conditions, à cause de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, ou à cause de où ce qu'ils sont allés ou ne sont pas allés dans leur vie, ils croient que ça fait en sorte que ça définit leur relation avec Dieu. Non, ce qui définit notre relation avec Dieu, ce n'est pas ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, c'est ce que Dieu a fait de moi. Ça, c'est mon identité. Dieu a fait de moi son enfant. Si vous êtes ici et vous êtes un enfant de Dieu, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Vous êtes saint, vous êtes bien dans le bien-aimé. Vous êtes bien-aimé du Père. Il n'y a rien qui peut changer ça. Maintenant, le péché nous fait croire que ça change. Puis en fait, le péché nous enlève toute la jouissance de cette vie, la joie de cette vie. Puis le péché, c'est un ennemi réel et destructeur. Je ne suis pas en train de minimiser l'importance du péché dans notre vie, mais je veux remettre ça en la perspective avec le fait que ça ne change pas mon identité. Si je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, même si je pêche. Parce que cette pensée ou cette attitude de performance fait en sorte qu'on essaye de compenser lorsqu'on pêche, en travaillant fort, en faisant la bonne chose chrétienne pour un peu regagner la faveur de notre Père. Pas pour gagner son pardon, mais gagner sa faveur. Que quand on pêche, Dieu, il nous regarde maintenant, là on est dans la catégorie des pas bons chrétiens, des pas bonnes chrétiennes. Puis, c'est quasiment épeurant pour un prédicateur de prêcher ça, parce que les gens vont dire « Ah, mais ça veut dire que le péché, c'est pas important, je suis tout le temps... » Non, mais c'est ça que je veux. Il faut croire qu'on a une nouvelle identité. Quand je pêche, je fais pas des bonnes choses qui sont agréables à Dieu. Mais pour Dieu, je suis pas dans une catégorie où est-ce que là, je suis plus un enfant de Dieu, je suis plus un saint, je suis quelque chose à quelque part dans une espèce de limbe chrétienne, spirituelle. Non, je veux dire, je suis soit un enfant de Dieu, soit je suis pas un enfant de Dieu. Puis si je suis... Il n'y a rien qui peut changer ça. Le péché, ça fait bien du trouble, mais ça ne change pas mon identité. Et ça, on doit le croire. Et est-ce que c'est nécessaire pour moi d'essayer de cultiver cette relation avec Dieu pour gagner sa faveur? Évidemment que non. Nous sommes des enfants de Dieu avant même qu'on quitte la maison pour s'égarer dans la folie du péché. Puis on dit, ah, mais Dieu, ça le déçoit. Bien, pour que Dieu soit déçu, il faudrait qu'il soit surpris. Puis Dieu n'est pas surpris de rien. Dieu est omniscient. Il apprend, on n'y a jamais rien appris là, dans notre vie. Il savait quand il nous a sauvés tout ce qu'on allait traverser. OK? Puis il nous a aimés quand même. Ça, c'est une bonne pensée à se rappeler. Dieu nous a sauvés quand même s'il savait toutes les anicroches qui étaient devant nous autres. Nous, on se dit, ah, là, c'est arrivé, là, Dieu doit être dans son ciel, puis il se gratte à la tête, il dit, quelle folie il vient de faire là. Ça ne l'a pas surpris. Parce qu'il est omniscient. Alors, ça m'amène à cette question. Pourquoi le Père a laissé son fils prendre l'héritage, puis tout dépenser? Pourquoi? Parce qu'il voulait lui enseigner les voies de sa grâce. Par opposition à la voie de la folie qui est empruntée. Là. Il voulait montrer la différence entre les deux. Vous savez, ça nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Vous savez, comme enfant de Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut. On n'est pas des robots, Dieu nous laisse libres. Mais c'est là tout le point, justement, de Romains 6, 1 à 3. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché avec la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, on voit ça les dimanches après-midi, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Tout le point ici de ce que Paul amène, c'est qu'on est mort au péché. Donc, lorsque on comprend et on croit à notre identité. Que maintenant, le péché, c'est plus notre maître, c'est plus notre identité. Autrement dit, mon identité, c'est pas ce que j'ai fait, que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, c'est ce que Dieu a fait de moi. Quand je comprends ça puis que j'y crois, je veux plus pécher. Pourquoi? Parce que j'aime mon Père, j'aime mon Dieu qui m'a sauvé de ça. C'est ça le désir de mon cœur, c'est ça l'Esprit de Dieu en moi. Il prend plaisir à toutes les voies de Dieu. Par contre, c'est difficile pour un esclave de jouir d'une relation intime avec son maître. Si je vois Dieu comme mon maître et moi je suis son esclave là, c'est dur de s'approcher. Mais quand on parle d'un père, Dieu se révèle à nous comme un père parce que c'est la relation la plus intime qu'il peut y avoir. La relation père-fils, une relation d'appréciation par l'acceptation basée sur ce que lui a fait de nous. Que Dieu nous délivre de cette mentalité de performance qu'on pense que notre acceptation de Dieu, ça va être déterminé par ce que moi je fais. Non, c'est déterminé parce que Dieu a fait de moi qu'il grave sur nos cœurs. Et attention là aussi, parce que souvent c'est teinté avec notre relation avec notre Père terrestre, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de rejets. Mais ça n'en est pas comme ça avec notre Père céleste. Une relation forte et intime avec notre Père céleste ne peut que grandir par la foi et la conviction qu'on est accepté de façon inconditionnelle par lui et que nous avons l'identité de fils. Et je dirais là-dessus, la seule motivation, la motivation suprême pour nous garder dans cette vie qui va porter du fruit, qu'on n'essaye pas de faire pour être accepté, mais parce qu'on fait parce que nous sommes acceptés, on porte du fruit parce que nous sommes accepté parfaitement, la motivation, c'est l'amour. L'amour, parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un sentiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et je l'ai déjà dit, je veux le répéter encore, cherchez pas à avoir l'amour parfait, ça va jamais arriver. Dieu, je veux t'aimer parfaitement. On tombe toujours à court dans nos efforts à nous-mêmes et tout ça. Mais l'amour parfait qui bannit la crainte, c'est l'amour de Dieu. Lorsque je suis sécure, lorsque je suis solide dans ma foi, mon appréciation, mon appropriation de l'amour de Dieu pour moi, c'est ça qui va produire du fruit. Parce que ça, c'est inébranlable, c'est parfait, c'est inchangeable. L'amour de Dieu. Et pensez à ça, je le répète encore, l'amour de Christ nous presse. C'est quoi qui va me motiver? C'est quoi qui va me pousser? C'est pas mon amour pour Dieu parce que ça, je vais regarder à moi puis je vais être découragé parce que c'est pas assez puis ça devrait être mieux. Non, c'est l'amour de Christ. C'est ça qui me presse. Parce que lui est mort et donc à cause de ça, moi aussi je suis mort avec lui. Et là maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est donc par sa grâce, au moins de la foi, que je porte le fruit de cet amour dans ma vie. Donc, je termine avec cette idée-là ce matin. La motivation pour Dieu, notre source de vie, est fondée sur le fait qu'on est accepté déjà parfaitement par notre Père céleste quand on est un enfant de Dieu et qu'on a une nouvelle identité en lui. Et cet amour, c'est notre amour pour Dieu. C'est un amour qui répond à l'amour que Dieu nous a aimé, le premier. On répond à ça. Je veux dire, vous voulez quelque chose de bon dans votre vie, cherchez jamais l'origine en vous. Tout ce qui est bon, toute grâce, tout don excellent vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous voulez quelque chose de bon dans votre vie, allez le puiser dans le Dieu qui est toujours bon, toujours vrai.
Amen.
Et là, je vais vous amener deux versets qui des fois nous mettent un peu inconfortables avec ce que je viens de vous dire là. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ah ben là, c'est pas d'autre fardeau ça, et ses commandements ne sont pas pénibles. Mais moi, je les trouve pénibles des fois, ces commandements. Ben, savez-vous, des fois, on peut voir les mêmes versets puis les voir avec des nouveaux yeux quand on les comprend, selon un nouveau paradigme. On peut voir la parole de Dieu et ses commandements dans la lumière, pas comme étant un fils indigne, mais un fils accepté et aimé, à qui est donné l'opportunité avec ses commandements, de manifester la vie de Christ en nous. Quand Dieu nous dit, mets des choses devant nous pour y obéir par la foi, il nous donne l'occasion de manifester en nous son Fils bien-aimé. Pour ça que j'ai dit, puis ça c'est un autre verset qui des fois qui nous trouble. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah! Là, on dit ça, puis on se met à shaker. On va tout de suite au verset plus loin, parce que là, on dit, oh non, pas encore un fardeau. Attendez. Puis là, c'est bien important ce que je vais dire là. On peut comprendre ce verset, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus qui a dit ça. On peut le comprendre pour obéissez-moi pour démontrer votre amour pour moi. Ou on peut le comprendre parce que tu m'aimes, je te donne l'occasion de le démontrer. Autrement dit, si tu m'aimes, il faut que tu le montres, mais plutôt parce que tu m'aimes, parce que j'ai mis en toi mon esprit qui t'anime, qui porte du fruit, là, je te donne l'occasion de le montrer. Il y en a un, c'est un fardeau sur nos épaules, puis l'autre, c'est une libération de cette lutte qu'on a dans nos cœurs. Le vrai problème avec la question de l'obéissance dans nos vies, c'est un problème d'amour. Et si c'est un problème dans notre soumission avec Dieu, on a besoin de l'aimer plus. Alors, je termine avec mon message en disant, faut aimer plus Dieu. Ça, c'est un beau fardeau à mettre sur le dos des chrétiens. Hein? Faut aimer plus Dieu. Oups. T'as vu? Ça tient pas mon affaire, tout tombe et démentibule. Non, mais je vais vous donner la clé, là. Comment qu'on peut aimer plus Dieu? Non, mais n'est-ce pas que c'est vrai dans mon cœur que je désire, quand je suis un enfant de Dieu, Dieu, je veux t'aimer de plus en plus. Mais si je vous dis, faut aimer plus Dieu, là, j'ai un fardeau sur mes épaules, puis ben comment je vais faire? Puis je ne l'aime pas comme je devrais, puis là, on peut devenir découragé. Écoutez ce que Jésus lui-même a prié dans ce sens-là. Jean 17, versets 25 et 26. Père juste, le Fils s'adresse au Père. Le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, et écoutez bien la fin du verset, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Comment je fais pour aimer Dieu plus? J'apprends à le connaître. Le connaître, cette relation, plus je connais mon Dieu, plus je vais l'aimer. Pourquoi? Parce que quand je connais Dieu, je connais son amour. Dans le fond, j'apprends à répondre à ce que Dieu me révèle sur lui. Voyez-vous, le fardeau est plus sur mes épaules. Je vais l'aimer comme fruit de le connaître. Ce Dieu d'amour, ce Dieu incroyable et merveilleux. C'est pour ça que Paul dit, lui qui était un champion du religieux et de la performance, il dit, je regarde toutes ces choses-là de son pédigree spirituel qu'il venait de donner dans Philippiens 3. Je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il voulait connaître Christ de plus en plus, c'était sa motivation parce que le connaître son amour, connaître sa grâce, c'était la clé pour que tout débloque dans sa vie. Et c'est ça aussi pour nous autres. Et donc, j'ai une question pour terminer. Si vous êtes ici et vous n'êtes pas sauvé, je vous pose une question. Connais-tu le Dieu d'amour? Et je n'ai pas dit connais-tu l'amour de Dieu. Probablement que tu es ici, tu as entendu beaucoup de messages sur l'amour de Dieu. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Romains 5, 8, car Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je ne demande pas si tu connais l'amour de Dieu, tu en as entendu sûrement beaucoup parler. Mais ça semble peut-être distant, ça semble peut-être très peu concret si tu ne connais pas le Dieu d'amour. C'est une personne. Dieu, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas des choses qu'on apprend dans le domaine spirituel pour nous aider. Dieu, c'est une personne qu'on rencontre et en qui on se confie pour le salut de notre âme. Donc, connais-tu ce Dieu d'amour qui est mort à ta place? Écoutez ce que ça dit dans 2 Corinthiens 5, 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Excusez, j'ai mis Romains, mais Ouais, non, ben, je vais vous le lire, mais c'était pas ça que je voulais lire. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais ce que je voulais vous lire, c'était 2 Corinthiens chapitre 5, versets 20 et 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tout est accompli. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, vous n'avez qu'à accepter ce que Christ a déjà fait. C'est parfait, c'est complet, il n'y a rien à rajouter. Recevez-le pour vous-même. Et un dernier mot pour les enfants de Dieu ici. Essayez pas d'aimer Dieu plus par vous-même, vous allez être découragés. Immergez-vous, inondez-vous, saturez-vous de l'amour de Dieu, de le connaître, lui, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation, le Dieu vivant. Et vous ne pourrez pas faire autrement que répondre à tant d'amour, à tant de grâce et de vérité. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Et tu ne révèles pas sur nous, sur toi Seigneur, des fables, des choses abstraites, tu te révèles tel que tu es. Merci que dans la parabole du fils prodigue, oui, il y a le fils prodigue, puis on en parle, mais aussi on voit une révélation de toi, notre Père, de ta disposition face à ceux qui s'égarent. Merci Seigneur pour t'être révélé à nous ce matin. Et ma prière, c'est que on croit à ce que tu nous as dit sur toi, qu'on le croit pleinement, Seigneur. Et simplement, comme un enfant. Et merci, Seigneur, pour chacun ici. Je sais que tu es à l'œuvre, tu fais toutes sortes de choses. Ça dépasse notre compréhension, notre entendement. Mais Seigneur, merci que c'est toi qui es à l'œuvre. Continue, Seigneur, lâche-nous pas. Forme Christ en nous. Et appelle ceux qui ne te connaissent pas, appelle-la à ton Fils bien-aimé. Qu'il soit sauvé. Pour l'éternité, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.